Micro, microscopie, suite, suite, microscopie, suite. Édouard Zambeau.
Dans les personnes âgées, s'en sortiront ceux qui ont la chance d'avoir des enfants, ceux qui ont la chance d'avoir un patrimoine et des ressources. La dernière enquête montrait qu'il y avait plus d'un million de personnes hébergées dans la famille ou chez des amis. Il est évident que pour le moment, c'est la solidarité familiale en premier lieu et la solidarité de proximité dans un deuxième temps qui supplée aux carences des solidarités organisées soit au niveau national, soit au niveau départemental. On est en train de voir les personnes âgées comme un coût et un problème au lieu de les voir comme et une chance, mais aussi un équilibre de société. Et une société qui ne s'occupe pas de ses plus fragiles, c'est-à-dire les enfants et les personnes âgées, c'est une société qui ne va pas bien, qui évolue vers quelque chose qui est anti-solidaire et qui va se retourner contre la société, parce qu'on ne retournera plus en enfance, mais on arrivera à être personne âgée, et ce sera dramatique.
Triste augure que vous venez d'entendre dans la bouche de Patrick Doutreline. Il est le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Nous l'écouterons d'ailleurs un peu longuement plus tard dans Microscopie. On se retrouve donc dans la seconde partie de cette émission consacrée aux conditions de vie, à la dégradation des conditions de vie, à la précarisation des retraités et des personnes âgées. Pour nous accompagner et nous éclairer, nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Pélissier, chercheur et auteur de « La nuit, tous les vieux sont gris, la société contre la vieillesse », sous-titré ainsi aux éditions Bibliophane, ainsi que de « La guerre des âges » aux éditions Armand Collin, deux livres sur une forme de discrimination dont sont victimes les plus âgés. Pour nous accompagner également dans ce studio aujourd'hui, Claude Bernard, le président de l'Union Nationale des Retraités et des Personnes Âgées, l'UNRPA, comme on dit, une association créée au lendemain de la guerre, je l'ai dit dans la première partie de cette émission, et qui revendique plus près de 100 000 adhérents au doigt mouillé. Pour relancer le débat sur la précarisation des plus âgés, je vous propose de nous rendre dans le 19e arrondissement de Paris, au marché de la place des Fêtes. Précisément, Aline Leclerc y a ouvert son micro au moment où les commerçants remballent eux, leur stand, une occasion pour de nombreuses personnes de récupérer les produits invendus ou altérés parmi ces glaneurs, comme on les appelle aujourd'hui, de nombreux retraités. Ils expliquent que les prix des produits alimentaires et particulièrement des produits frais sont devenus pour eux tellement prohibitifs qu'ils n'ont pas d'autre solution que de glaner sur les marchés pour s'en sortir.
Allez, tiens, pour complexe, voilà, 2 kilos d'euros pour terminer, hein. 2 kilos de concomplexe, c'est 2 euros, allez.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, monsieur ?
Bon, ben, je ramasse ce qui reste en fin de marché, parce que ma retraite actuelle, j'étais un ancien fonctionnaire, ça ne me suffit pas.
Elle se monte à combien, votre retraite ?
Dans les hôpitaux.
Un peu plus de 1000 euros.
Vous demandez votre âge ?
Oui, j'ai 62 ans. Le problème, c'est que je paye un loyer plein pot de 600 euros, et donc ma retraite, vous imaginez bien qu'elle n'est pas terrible. Et moi, c'est 400 ou 500 euros pour vivre, donc...
Et du coup, là, qu'est-ce que ça vous permet d'économiser, de faire la fin des marchés ?
Quand ils préconisent 5 légumes par jour, au vu le prix des légumes, c'est sûr que là, ici, j'ai ramassé des artichauts, j'ai quelques carottes, je vais peut-être trouver autre chose après. Donc ça
là, des poires, je vois.
Oui, quand on vient de me donner deux poires, mais enfin, elles sont déjà bien avancées.
Et vous faites ça toutes les semaines ?
Toutes les semaines, ouais. Ouais.
Ça vous permet de mettre de l'argent de côté ?
Je mets pas d'argent de côté, ça me permet de manger des choses que je pourrais pas acheter normalement en magasin. Il me reste à acheter dans le magasin, peut-être que de la viande ou un fromage, truc comme ça. Voilà. Voilà.
Et vous, madame ?
63 ans, retraitée. Donc, tout passe dans le loyer, donc on garde encore le loyer et ça permet de manger.
Enfin, vous demandez à combien elle s'élève, votre retraite ?
Elle s'élève à 900 euros. Alors, une fois qu'on a payé un peu le téléphone pour garder contact avec les enfants, de recevoir un petit-fils sans qu'il se doute de rien, les parents non plus, parce que s'ils savaient leur mère là, bon. Puis ça permet de manger, sinon c'est le riz, je fais des soupes et des compotes, voilà.
Donc là, qu'est-ce que vous avez ramassé en fait ?
J'ai ramassé des mangues, du raisin, des fraises, des pommes, des poires, il y en a plein là-bas, et des oranges, avec ça on s'en sort.
Qu'est-ce que c'était votre métier ?
Mon métier, j'étais maître auxiliaire dans l'éducation nationale et je n'étais pas titularisée, prof de philo.
Vous voyez, ça mène à tout. Vous vous rappelez du premier jour où vous êtes décidée à faire ça, à venir à la fin des marchés ?
Le premier jour, il y a très très longtemps, j'avais 28-30 ans et j'avais deux enfants à élever. Donc je le faisais, après je ne le faisais plus et je le refais à la retraite. Voilà, la boucle est bouclée.
Vous attendiez à ce qu'à la retraite, ce soit
difficile. Je m'attendais à avoir une... Oui, que ça puisse se permettre de vivre. Mais c'est-à-dire que c'est comme le monsieur, une fois qu'on a payé mon loyer, c'est là, avec les charges et tout, à 500, hein, à Paris. Alors il reste... faites le calcul. bon et qu'on se chauffe pas beaucoup néanmoins et qu'on a payé l'électricité, le chauffage, le téléphone quand même, la voiture on s'en sert plus.
Voilà, j'ai l'impression que vous êtes nombreux sur le marché à faire ça.
C'est la guerre, on se connaît bien. C'est la guerre. Non, il y a une espèce de convivialité, il y a quelques personnes qui sont rapaces. Mais fort peu. C'est triste à dire, mais je n'ai pas honte. Je trouve que c'est l'État qui devrait avoir honte.
Voilà. Tant vous me dites que vous n'avez pas honte, mais vos enfants sont pas au courant.
Oui, bah parce que je veux absolument pas être à leur charge. C'est pas une histoire de honte, mais je veux pas qu'ils se doutent, oui. Bah oui, parce que je trouve que quand même, c'est pas merveilleux. Hein.
Moi, j'adore les radis.
Jérôme Pélissier, cette dame disait, répétée, on s'en sort. Est-ce que les personnes retraitées ont l'habitude de faire moins appel que les jeunes à la solidarité nationale et aux aides?
C'est difficile de faire des généralités là-dessus. Ce qui est certain, c'est que ce qu'elle exprime en termes de « je n'ai pas honte, mais je ne veux pas être une charge pour mes enfants », mais ce qui rejoint ce que disait aussi sur la dignité le premier témoignage qu'on avait tout à l'heure, hein, d'un monsieur qui avait quand même besoin de dire « je suis quand même digne malgré ma situation ». C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même un discours actuellement social assez répandu qui tend à culpabiliser les personnes qui sont en difficulté, les personnes fragile justement, de l'être et de coûter l'argent, entre guillemets, à leurs proches ou à la société. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui éprouvent une véritable culpabilité, hein, à se retrouver dans des situations de pauvreté ou de difficultés économiques. Hein.
C'est un peu la thèse de votre livre, hein, La guerre des âges. En gros, vous dites que pour que cette guerre entre les générations n'ait pas lieu, il faudrait, excusez-moi du terme, démonétiser la vieillesse. Il faudrait arrêter de dire que la vieillesse n'est qu'un centre de coût, comme on dit dans une entreprise.
Bah, il faut arrêter d'avoir de la vieillesse une vision, et surtout de l'être humain, une vision uniquement centrée sur des questions, en effet, de performance ou de rentabilité. Ça, c'est des choses qui ne sont valables que si on imagine que la société est majoritairement peuplée de gens ayant entre 30 et 40 ans, un certain type de métier, en pleine forme, pas malade, et se pensant tout puissant, immortel et invulnérable. C'est un modèle qui tient pas la route, enfin qui tient peut-être la route pour ces gars-là quelques années, quoi. Mais voilà, c'est pas un modèle qui permet de travailler sur une société entendue comme un groupe humain où à un moment ou à un autre dans la vie, quel que soit, qu'on soit un jour bébé, un jour enceinte, un jour accidenté, un jour très vieux, etc., il y a des moments dans la vie où on prend davantage soin des autres, et il y a des moments dans la vie où les autres prennent davantage soin de nous. Une société humaine, c'est ça. Si on commence à arriver sur un modèle où on laisse de côté les plus vulnérables, c'est un modèle, hein, c'est un modèle de mammifère lambda, mais c'est plus un modèle de société humaine en tout cas.
Comment expliquez-vous la schizophrénie du discours, j'ai presque envie de dire, entre cette valorisation de la sagesse, de l'ancienneté, à partir du moment où elle est une abstraction, et dès qu'on est obligé de regarder concrètement les cas de figure, de réduire la vieillesse à ce qu'elle nous coûte en effort de solidarité, quoi.
Bah, la schizophrénie, on l'a de moins en moins, parce que quand même de manière théorique ou abstraite, le discours sur vieillesse égale sagesse, vous l'avez de moins en moins. Si vous regardez même dans le champ politique, par exemple, vous avez aujourd'hui plus de discours qui vont reprocher, entre guillemets, la moyenne d'âge ou l'âge de certains députés ou de certains sénateurs, plutôt que de se réjouir du fait qu'il y en ait certains d'entre eux qui aient éventuellement plus d'expérience politique parce qu'ils ont 70 ou 80 ans. Donc je crains malheureusement justement que ça soit de moins en moins schizophrène, parce que l'équivalence qu'on avait en effet à une époque entre l'âge et une certaine forme, en tout cas, si ce n'est de sagesse, mais en effet de rapport à l'expérience, est en train quand même de diminuer, même dans les discours théoriques.
Claude Bernard, vous représentez un lobby puissant, vous êtes courtisé, électoralement.
Non, et c'est assez surprenant d'ailleurs,
prenons de la simple arithmétique, vous représentez les retraités, à peu près 25% de la population française, vous devriez être le plus puissant des lobbies dans le paysage politique. Personne ne représente 25% des... Enfin, si, seul si, le lobby des hommes ou le lobby des femmes pourrait être supérieur numériquement.
Alors, il y a le CNRPA, le Conseil National des Retraités des Personnes Âgées, qui regroupe, en principe, les 16 organisations qui s'occupent des personnes âgées. Mais là, faut arrêter de rigoler, il n'a aucun pouvoir. C'est un truc de consultation, c'est nommé par décret, même pas une loi. Regardez un peu ce que je dis toujours en rigolant, mais je ne ris pas du tout. Les anciens combattants, ils sont de moins en moins nombreux, ils ont un secrétariat d'État. Les retraités, ils sont de plus en plus nombreux, c'est dans la solidarité. Il n'y a plus de secrétariat d'État. La loi, même le pouvoir politique, ne reconnaît pas les anciens. Il les rejette.
Jean Pelletier, comment peut-on expliquer qu'il n'y ait pas de structuration politique de cet intérêt
Il y a plusieurs...
Parce qu'il y a des revendications communes.
Oui, il y a des revendications communes, mais qui sont sur la question de poids électoral. Les retraités dans leur ensemble auraient un poids électoral si leurs intérêts de retraités étaient supérieurs à leurs convictions politiques. C'est pas parce que tout d'un coup vous avez plus de 60 ans ou que vous êtes à la retraite que si vous étiez de droite vous devenez de gauche ou que si vous étiez de gauche vous devenez de droite.
C'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre.
Les convictions qu'on a, qui sont relativement stables d'ailleurs au cours de la vie, elles changent pas parce que tout d'un coup on change d'âge. C'est-à-dire que la majorité des retraités sont d'abord des gens de telle ou telle conviction avant de se sentir retraité.
Si vous dites donc, d'ailleurs que quand on regarde les retraités de l'extérieur, on a tendance à croire que le qualificatif de vieux est supérieur à tous les autres. Il éteint tous les autres.
Ben oui, ça uniformise complètement quand regardez ces discours justement sur les retraités ou les vieux. Si tout d'un coup, parce qu'ils sont retraités ou vieux, il y avait des choses communes, à part le fait d'être à la retraite ou d'avoir plus d'un certain âge, entre ces personnes-là.
Donc vous donnez l'exemple en disant quand on rentre dans une maison de retraite, il n'y a pas des vieux hétérosexuels, des vieux homosexuels, des vieux ceci, des vieux cela.
Il y a des vieux, tout court. C'est-à-dire, il n'y a plus des vieux de gauche, des vieux de droite, des vieux cons, des vieux intelligents, des vieux homosexuels, des vieux hétéros. Il y a des vieux ou des personnes âgées, comme si tout d'un coup, tout le monde était identique.
Ça, c'est une vision de l'extérieur.
Bah oui, et c'est une vision très forte. Regardez même statistiquement, souvent, ces statistiques ou même ces sondages où vous avez des tranches qui sont faites. On a interrogé les 20-30 ans, les 30-40 ans, les 50-60 ans, et puis souvent les 60 ans et plus. C'est-à-dire que tout d'un coup, entre 60 et 110, allez hop, on peut foutre tout le monde dans le même panier, puisque c'est pareil. C'est ça que ça révèle, cette espèce de notre regard actuellement social est un regard qui est extrêmement uniformisant sur la vieillesse.
Pour revenir à des questions de précarité, devient-on pauvre quand on devient vieux, ou est-ce que ce sont les jeunes pauvres qui deviennent des vieux pauvres ?
Globalement, il y a de la continuité. C'est-à-dire qu'un actif pauvre aura plutôt tendance à devenir un vieux encore plus pauvre que le pauvre qu'il était lorsqu'il était actif. Mais c'est vrai dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que le très vieux Marcel Dassault était encore plus riche que le Marcel Dassault de 20 ans. C'est-à-dire que quand on part dans la vie avec un certain patrimoine ou avec tout un tas de choses, on a tendance à la croître aussi. C'est-à-dire ce qu'on voit dans la vieillesse, c'est des effets de cumul. Aussi bien les très riches deviennent encore plus riches par effet de cumul, et les pauvres deviennent encore plus pauvres parce qu'on a l'érosion progressive d'un certain nombre de choses. Donc on a vraiment quelque chose de très excessif dans la vieillesse.
D'un effet loupe, quoi.
Oui.
Est-ce qu'on peut faire des projections sur le fait que aujourd'hui sont à la retraite les enfants du baby-boom qui ont vécu les 30 glorieuses, qui ont un parcours professionnel souvent sans anicroche, et qu'on voit bien aujourd'hui que la norme professionnelle est beaucoup plus accidentée dans la société française? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence quand dans 15 ans, 10 ans, 15 ans, vont arriver à la retraite des gens qui ont eu un parcours professionnel beaucoup plus heurté?
Ça rejoint, c'est un peu, quand je vous parlais tout à l'heure, des indicateurs qu'on a, justement. On sait que les réformes des retraites de ces dernières années, l'importance aujourd'hui du travail partiel, à temps personnel, notamment pour les femmes, imposées. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit aujourd'hui qui touche les gens de 30, 40 ans, 50 ans, le fait d'avoir de plus en plus de gens qui, à 45 ou 50 ans, sous prétexte qu'ils seraient, entre guillemets,
trop vieux,
sont mis à la porte, justement, du marché de l'emploi, etc. Tous ces phénomènes-là vont causer, dans les années, justement, 2020-2030, cette augmentation des situations de pauvreté à la retraite et dans la vieillesse.
Claude Bernard, ça voudrait dire qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont toucher le minimum vieillesse?
Ah, je pense qu'on est bien parti pour ça. Je pense d'ailleurs que le système de retraite par répartition va demeurer, mais pour avoir un minimum du minimum du minimum. Tout le reste, ce sera par capitalisation. Je pense que nos enfants et nos petits-enfants vont trinquer lourdement. Mais déjà, à l'heure actuelle, je rejoins M. Pelletier sans aucun problème. Moi, je constate que les gens de 90 ans et plus 90 ans, où ils ont les moyens et ils peuvent se faire soigner, ou ils n'ont pas les moyens et ils vont non pas dans les cliniques privées UP, ils
dans
vont
les
dans
santé.
Les hôpitaux et ils vont dans les mouroirs. Parce qu'on le veuille ou pas, il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas de ce... c'est tout. Ensuite, vous avez les gens de 80 ans. Qui n'ont pas vécu la même façon que les gens de 70 ans, et qui ne sont pas culturellement, en fait, accros au crédit. Ils sont rarement surendettés, ceux-là. Et quand ils sont surendettés, c'est toujours à cause de leurs enfants. Ensuite, vous avez les gens de 70 ans, à peu près, qui ont encore un peu plus alertes, mais qui ont encore d'autres problèmes. Alors, ce que je pourrais illustrer, c'est en disant, on assiste souvent dans des sections à l'intergénérationnalité entre les gens de 60 ans
et ceux de 90.
Non, même ceux de 70. Vous avez une association où des gens de 60 ans encore alertes physiquement, ils sont jeunes, ils font du jeunisme, ils créent une association de marche et ils relèvent la partie. Et ils s'en vont. Et c'est bien. Puis à un moment, ils se disent, mais pourquoi on va cotiser à une association comme l'UNRPA? On marche ensemble, il n'y a aucun problème. Ils créent leur association de marcheurs, ils abandonnent l'association de défense de leurs intérêts.
Ils viennent plus chez vous parce que ça les identifie comme des vieux.
Ils ne s'aperçoivent pas qu'en partant tout seuls, un jour, ils seront dépassés par des plus jeunes qui rigoleront en sifflant et qu'entre eux, ils se retourneront. Mais il n'y aura plus personne derrière. Ça rappelle un peu l'histoire pendant la guerre, quand ils en étaient venus arrêter les juifs. J'étais pas juif, j'ai rien dit, etc., etc. Et ça, je le constate tous les jours. Ensuite, je suis absolument persuadé que les conditions de vie qui vont être faites à nos enfants et nos petits-enfants font que c'est pas sûr et certain que pour eux, l'allongement de la durée de la vie soit une constante.
C'est pas sûr qu'on va vivre de plus en plus vieux à un moment.
Je pense que les plus riches vivront plus vieux, mais pas les plus pauvres.
C'est très clair, hein. Il y a un certain nombre de médecins d'ailleurs qui alertent, hein, sur ces questions-là. L'espérance de vie dans les quartiers les plus populaires, enfin qui regroupent les populations les plus pauvres, et aux alentours de 60 ans en France, c'est-à-dire pratiquement l'espérance de vie de pays en développement.
C'est l'effet MMM, McDo, Monsanto, Marlboro, pour le dire de manière un peu rigolade. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas là aussi d'éléments qui nous font penser que l'espérance de vie, tout l'accroissement de la longévité qu'on a eu, peut dans les années à venir, pour des raisons environnementales, d'alimentation, etc., diminuer.
Un certain âge, des personnes âgées qui n'ont plus en capacité de vivre correctement et compagnie, se laissent mourir. Mais ils se laissent mourir. Rien que pour ne pas rentrer dans une maison de retraite, pour qu'on ne saisisse pas la maison ou une partie de la maison, parce qu'on a peur de ça, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, pour pouvoir léguer à ses propres enfants le minimum de ce qu'on a réussi à avoir en 20 ans, le vieux se laisse mourir.
Justement, hein, sur ces questions du logement et de l'habitat, dans son dernier rapport sur le mal-logement, la Fondation Abbé Pierre a tiré le signal d'alarme, hein, sur les conditions de vie des retraités pauvres et des personnes âgées en général. Et je vous propose de retrouver Patrick Doutreligne, qu'on a entendu au début de cette émission. Il est toujours le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Et il revient, hein, sur ce constat, sur les problèmes de logement, y compris pour les propriétaires. Un constat inquiétant qu'il a livré au micro d'Aline Leclerc.
Peu de gens savent qu'il y a plus de 600 000 personnes âgées qui vivent avec le minimum vieillesse, c'est-à-dire une misère pour vivre, et donc qui se répercute obligatoirement sur leurs conditions de logement. S'ils sont locataires, ben ça bouffe quasiment leur loyer et les charges, il ne reste plus grand-chose pour vivre. Mais deuxième surprise, c'est qu'on a découvert que beaucoup, y compris dans ces gens qui sont minimum vieillesse, sont propriétaires, et dans l'adage, celui qui est propriétaire, il est déjà un petit peu sauvé, s'avère que ce n'est pas vrai, parce que, en tout cas, s'il est sauvé en termes de ne pas pouvoir être expulsé, il n'est pas du tout sauvé sur les conditions d'hygiène, sur la salubrité de son logement, parce que il a tellement faibles ressources qu'il ne sait pas l'entretenir, et que le moindre incident de toiture, de salle de bain, de fuite, n'étant pas entretenu, eh bien ça devient très vite quelque chose qui devient ou indécent ou insalubre, et ça c'est totalement négligé. Le grand axe, y compris présidentiel, de devenons tous propriétaires pour nous préserver de l'avenir, là un coup dans l'aile vis-à-vis des personnes âgées, parce que la propriété, elle doit s'entretenir et ça coûte. Et ça va aller en s'empirant, c'est-à-dire que, alors il y a bien sûr l'augmentation des loyers, qui elle est des fois moins perceptible pour personnes âgées quand elles restent dans leur logement, parce que l'augmentation des loyers était moins forte si vous restiez dans votre logement que si vous arriviez. Donc ce qu'on a essayé de montrer, c'est que ceux qui en même temps arrivent à la retraite ou peu de temps après changent de logement. Alors là, ils ont la double peine, c'est-à-dire qu'ils ont en même temps une très forte diminution de leurs ressources et ils arrivent en même temps sur un marché qui est très très cher. Alors sur la région parisienne, évidemment, c'est une caricature, mais même dans les grandes villes, les personnes âgées souhaitent, et c'est normal, rester au milieu de la ville parce que elles ont des difficultés à se déplacer et puis elles connaissent le milieu dans lequel elles ont vécu 20 ou 30 ans. Donc à ce moment-là, elles sont contraintes de rester en ville, là où c'est le plus cher. Nous, on a été très surpris. On fait de la distribution alimentaire sur la ville de Metz le soir, par exemple, pour les SDF, depuis quelques mois, de voir des personnes âgées, pas exclues, pas SDF, mais venir au bus et dire si vous pouviez nous dépanner, ou de laitage, ou de fruits, nous, on s'en sort plus.
Est-ce que ce sont des personnes qui font facilement des démarches pour trouver de l'aide? Est-ce que ça a été facile pour vous de vous rendre compte de dans quelles conditions vivaient ces gens et où ils en étaient?
Non, c'est difficile parce qu'ils ne sont pas demandeurs. Contrairement aux jeunes, contrairement aux gens de 30 ou 40 ans qui revendiquent ou qui contestent des situations de mal logement ou qui essayent de s'en sortir, là, il y a un peu la discrétion qui est liée à leur âge, leur histoire, de ne pas être repéré. Et puis, ils ne connaissent pas les circuits. C'est des gens qui ont bossé 30, 35, 40, 42 ans et ils ont toujours été, eux, ce qu'ils considèrent dans les classes moyennes. Et ils ne comprennent absolument pas qu'ils sont passés de classes moyennes à des classes pauvres ou en tout cas précaires, et ils veulent pas dans leur dignité, ils veulent pas aller voir des assistantes sociales, ils sont pas plaintifs en plus, ils subissent comme si c'était un peu inexorable, et donc on a découvert des situations de logement pourri, mais il dit ouais mais c'est chez moi puis j'ai l'habitude. Bon, il n'y a pas de toilette, je vais au fond du jardin, mais vous savez, j'ai pris l'habitude, c'est pas très grave. Ou on a vu une situation où les éviers sont bouchés depuis 3 ans. Et donc, il lui reste qu'un filet d'eau froide à la salle de bain, et il fait sa vaisselle, sa lessive, et puis son hygiène corporelle à ce petit robinet. Et il s'en plaignait pas. Il dit, voilà, c'est comme ça. Mais évidemment, si dès les premières démarches et qu'on leur améliore, ils sont très contents. Mais ils sont pas demandeurs. Donc, il faut aller au-devant d'eux.
Claude Bernard, est-ce que dans vos missions, vous considérez que vous essayez de réveiller, de pousser vos adhérents à la révolte? Patrick Doutreling le disait, là, il n'y a pas de revendication, il y a une forme de discrétion. On entendait tout à l'heure les différents témoignages insister sur la dignité, le fait de la discrétion. Est-ce que vous voulez faire sortir les vieux du bois et les emmener sur un terrain de révolte? Est-ce que
oui, oui, tout à fait. Mais les écueils sont nombreux, à commencer par exemple les dernières manifestations qui ont eu lieu. Nous avons appelé à manifester. Mais de toutes les manifestations, on n'a parlé que des actifs, on n'a pas parlé des retraites. En plus, les organisations syndicales qui créent les conditions pour faire des manifestations, qui sont en capacité de le faire, nous n'avons pas de subvention, on n'a rien du tout, c'est assez difficile, mais ne nous préviennent jamais. Nous ne sommes pas au courant. De toute façon, comme le principe de la retraite, c'est de faire payer les actifs, etc., donc les retraités, ça regarde les actifs, ça regarde pas les associations, etc., etc. Et on en est là, en fait. J'ai beau écrire et dire, rassemblons-nous tous, les anciens et les nouveaux. Non, les anciens sont toujours de côté. C'est le même processus politique, le même processus syndical, et je pousse tous mes adhérents à, oui, agir, oui, sortir dans la rue.
Est-ce qu'on voit, comme on le voit dans les pays anglo-saxons et particulièrement aux États-Unis, est-ce que vous voyez aujourd'hui parmi vos adhérents des retraités obligés de prendre un emploi, un petit emploi au noir, souvent pour boucler les fins de mois?
J'observe une tentative de phénomène dans ce sens-là, mais qui se heurte en fait au fait du manque de travail. Alors, c'est appeler des vieux à travailler quand il n'y a pas de travail pour les jeunes, c'est assez surprenant. Mais on ne fait pas rien, il faut arrêter, les vieux ne font pas, ils travaillent. Enfin, si tous les vieux qui s'occupent d'associations arrêtaient du jour au lendemain, quel que soit de 50 ans à 80 ans ou à 90, hein, ils arrêtaient, en France, il s'écroule le système social.
Jérôme Pelissier, est-ce que ces tentatives répétées, c'est plus que ces tentatives, de retarder l'âge de la retraite, ça n'a pas quelque chose par rapport à la déconsidération que vous décriviez de réintégrer les retraités dans le monde des actifs?
La question se poserait dans une société de plein emploi.
Bien sûr.
C'est-à-dire dans une société où les gens arriveraient à l'âge de la retraite en étant d'activité, à ce moment-là, on pourrait considérer que l'augmentation de l'espérance de vie est tout un tas de choses. Bon, il se trouve que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que pour l'instant, comme il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en situation d'emploi au moment du passage à la retraite, augmenter l'âge de départ à la retraite, ça constitue uniquement à diminuer le montant des retraites.
Quelle est la proportion des gens qui arrivent à la retraite en activité?
On doit être à autour de 50% à peu près aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a de fortes...
Alors je ne sais plus hommes-femmes, il y a des différences hommes-femmes, il y a des grosses différences aussi selon les pays européens, mais on est en France à la traîne en tout cas des pays européens par exemple pour les questions d'emploi des personnes de 50 à 60 ans. On est un des pays, et c'est là que c'est complètement aussi caricatural, c'est-à-dire on est dans une société où on n'a jamais été, on va dire, jeune aussi longtemps, et on n'a jamais été dans le monde du travail considéré vieux aussi tôt. Voilà.
C'est-à-dire on est vieux à 45 ans?
pour un certain nombre de DRH et d'entreprises, on est présenté comme étant vieux dès parfois 45 ou 50 ans. Et avec un discours en plus social. Alors là, pour le coup, on a une schizophrénie avec des personnes qui s'entendent dire parfois dans le monde du travail à 55 ans, ah bah vous êtes plus bon pour travailler, vous êtes vieux, on va vous sortir du marché de l'emploi. Et puis quelques mois après, mais attendez, en pleine forme comme vous êtes, il faut absolument que vous alliez dans des associations, que vous vous engagiez, que vous travailliez, parce que c'est pas possible de rester inactif alors que vous êtes en pleine forme.
Quelles sont les conditions pour bien vieillir, Jérôme Pélissier, pour finir?
Ça fait partie de ces injonctions. La dame l'a bien dit tout à l'heure, pour bien vieillir, il faut manger, c'est quoi? C'est 5 fruits et légumes par jour. Ça coûte combien de manger 5 fruits et légumes par jour? Ça coûte combien de faire du sport? Ça coûte combien d'entretenir son capital santé quand tout d'un coup on est malade? Un certain nombre de personnes aujourd'hui se payent et nous payent de grands mots comme ça sur le bien vieillir, sur le capital santé qui ne dépendrait que de chacun d'entre nous, etc. Je veux dire, les conditions de notre environnement, les conditions socio-économiques, etc. nous permettent de gérer un certain nombre de choses par rapport à nos activités, à notre santé. On ne peut pas dire aux gens vieillissez bien en les plaçant dans des conditions socio-économiques qui les privent de l'accès aux soins ou à une alimentation de qualité ou à un logement salubre.
Les inégalités ne s'estompent pas avec l'âge. Claude Bernard, Jérôme Pélissier, merci de votre visite dans le studio de Microscopie. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous renvoie tout d'abord au site internet de l'UNRPA, l'Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées. L'adresse, c'est www.unrpa.fr. Je vous recommande aussi les livres de Jérôme Pélissier, donc, on en a parlé aujourd'hui, La nuit, tous les vieux sont gris, sous-titré La société contre la vieillesse aux éditions Bibliophane, et puis La guerre des âges, chez Armand Collin. Là, c'est plutôt une réflexion pour justement se demander comment faire pour qu'elle n'ait pas lieu, cette guerre des âges. Des références que vous retrouverez évidemment sur le site de RFI, www.rfi.fr, à la page de Microscopie. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos réactions, vos questions, vos énervements, même sur notre adresse électronique microscopie@rfi.fr. Dans quelques poignées de secondes, vous retrouvez cette fois-ci l'ensemble des infos du monde grâce à un journal très complet de la rédaction de RFI. Bonne semaine à tous. Au revoir.